Je m'appelle Bernard Senet, j'ai 70 ans, je suis installé dans ce village de Velleron, dans le Vaucluse, depuis 42 ans. En fait, j'ai fait des études de médecine, je m'orientais plutôt vers la neurochirurgie ou la rhumatologie, et dans les années 70-72, donc à la fin de mes études de médecine, j'ai fait partie du MLAC, qui était le mouvement pour la libération de l'avortement. Donc on faisait des IVG clandestines. On aidait des femmes à pas être obligées d'aller en Angleterre, en Hollande ou en Espagne. Et on le faisait, je pense, sans problème, parce qu'on savait que ce qu'on faisait, nous, c'était médicalement correct. Enfin, on essayait d'être le plus propre, stérile, de pas provoquer d'hémorragie, etc. Et en se disant, de toute façon, il vaut mieux que la fille, elle le fasse avec nous, que dans les mains d'une faiseuse d'ange, et risquer de lui filer des problèmes, enfin, graves. Parallèlement, à la même époque, je travaillais dans des services de neurologie où on avait des patients très handicapés, et on décidait, en équipe, jamais tout seul, d'aider un certain nombre de gens à partir, soit parce qu'ils étaient trop souffrants, soit parce qu'ils le demandaient. On faisait donc des euthanasies. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot comme ça. On va dire plutôt des aides médicales à mourir. Et on utilisait ce qu'on appelle un cocktail lytique, le DLP, qui combinait le dolosal, le fénergan et l'argactyle. Donc, ce sont trois médicaments. Vous demandez à tout étudiant en médecine le DLP, il sait exactement ce que c'est. Une manière de permettre aux gens de partir très tranquillement, rapidement. Et ces produits n'existent plus maintenant, mais depuis, en gros, la mise en place de soins palliatifs, on va dire les années 90-95, on utilise d'autres produits, enfin, principalement un médicament qui s'appelle l'Hypnovel. Et je crois qu'il faut être clair, aujourd'hui, en 2019, on utilise ce produit pour vraiment faire des euthanasies actives. Et beaucoup de médecins le font et ne peuvent pas le dire, puisque la loi l'interdit. Donc les médecins sont forcément condamnés à mentir. Une fois, je me suis installé dans mon cabinet. Donc pendant les premières années, je n'ai pas été confronté à des maladies particulièrement catastrophiques. Et puis, en 1980, il est arrivé donc cette jeune fille de 12 ans. Donc elle s'appelle Valérie, avec un cancer abominable, ce qu'on appelle un sarcome, nous. C'est des cancers très évolutifs, très dangereux, très mauvais. Et elle était en fauteuil roulant, elle était paralysée parce qu'il y avait des métastases partout. Alors elle a tout eu, chirurgie, elle a eu des rayons, elle a eu des chimios. Donc ça a été 2 ans de galère et elle s'est battue vraiment comme un lion. Elle avait une énergie absolument faramineuse. Elle avait un peu du mal à parler, mais elle avait toute sa tête. Et donc, au bout de 2 ans, le 3 mars 82, elle a dit « Je fête mes 14 ans avec mes copines. » Je suis toujours ému quand je reparle. Et elle m'a dit « Après, je m'arrête. » Elle avait au moins 2 ou 3 mois avant dit « Je sais que je suis foutu. » Je vois bien que ça s'aggrave. Elle s'est rendue compte que la maladie évoluait tellement qu'elle a dit, moi, je pourrais pas me marier, je pourrais pas avoir d'enfant, je pourrais pas vivre comme une femme normale. Et je sens bien que mon corps m'abandonne, enfin, me trahit. Il y a un moment, il faudra que je m'arrête, il faudra que tu m'aides à partir. Donc, elle savait que j'allais l'aider et que je résisterais pas à sa demande, que je serais pas contre. Humainement, on va pas lâcher quelqu'un avec laquelle on s'est battu, qu'on a accompagné et tout ça. On est dans la loi de l'humanité. Mon souci à moi, ça a été de me dire avec quoi je vais faire ça. Oui, bien sûr, tous les médicaments qu'on utilise dans les hôpitaux, tout ça, nous les généralistes, ils ne nous le donnent pas. Hein. En gros, je les ai volés. Hein. J'étais médecin de pompiers à l'époque. Dans les ambulances de pompiers, il y a des produits que vous pouvez récupérer qui ne sont pas décomptés. C'est-à-dire que personne ne va s'apercevoir que vous avez piqué 3 ou 4 ampoules. Bon, tu sais pas, une ampoule de Valium, ça doit valoir 50 centimes. Oui, non, c'est pas le problème, c'est pas un problème financier. Hein. Je me suis fait un stock, quoi. Et puis après, il n'y a pas eu de souci. Hein. Je veux dire, ça s'est très bien passé. La partie, si je puis dire, technique n'a pas posé de problème. Et L'autre problématique, c'était quel moment on le fait, comment on le fait. On avait discuté avec elle et sa mère, et il fallait que son papa soit là. Il était marin, et il était souvent sur son bateau. Donc on s'était aligné sur ses horaires, hein. Il fallait que ce soit un moment où il soit à terre. Donc on avait calé ça un samedi matin, qui était juste 8 jours après son anniversaire. En fait, ça a eu lieu chez eux, c'était l'hôpital à la maison, avec tout le matériel dont on avait besoin au point de vue médical. Et j'ai dû arriver à 4 ou 5 heures du matin. Le papa, lui, c'était résolument, mais très clairement, il avait dit « je veux pas assister, donc je me mets dans une pièce un peu à côté ». Il y avait une cheminée, je me souviens, il avait allumé la cheminée. Il s'était calé dans un fauteuil. Je le revois très bien comment il était installé. Et la maman était, elle n'a pas paniqué du tout. Et Valérie, elle était extrêmement sereine. Jusqu'au bout, elle était bien. Donc après, ben moi, j'ai injecté le produit. Elle s'est arrêtée de respirer. Elle est partie tout de suite. Enfin, 5 minutes, 10 minutes, je sais pas. Enfin, très très rapidement. C'est moi qui ai fait le certificat de décès. Donc j'ai évidemment écrit que c'était une mort naturelle, hein. J'allais pas écrire que j'avais injecté des produits. Donc c'est un certificat de décès tout à fait classique, évolution terminale d'une maladie grave. Hein. Bon, en sachant qu'effectivement, quand tu aides quelqu'un à mourir, c'est la cour d'assises. Hein, c'est un crime avec préméditation, c'est le plus lourd. Aider quelqu'un à mourir, c'est crime avec préméditation. Un mois après, ou 3 semaines après, à une réunion de formation d'un groupe de médecins auquel j'appartiens, on commençait toujours la réunion par raconter nos derniers trucs, enfin, ce qui nous était arrivé. Et comme l'histoire, je l'avais toi-même sur le cœur, je leur raconte ça. Et alors là, ils ont tous réagi en me disant « raconte pas ces trucs-là ». L'ordre des médecins va te tomber sur le dos, tu sais que t'es dans l'illégalité. Mais j'ai réalisé, c'est là que j'ai réalisé en fait. Pour moi, j'avais accompagné quelqu'un qui avait une maladie douloureuse et qui était en fin de vie, et j'avais respecté sa volonté. Mais j'étais pas du tout dans j'ai fait un truc illégal. Et c'est là qu'ils m'ont ouvert les yeux. Et c'est pour ça que c'est l'histoire qui m'a enclenché dans le combat pour l'aide à mourir, c'est l'histoire de cette jeune fille. Je me suis dit, mais c'est comme pour l'avortement. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge, il faut qu'il y ait une loi. Et donc, dans les mois qu'on suivit la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc, a été créée. Je me suis mis à militer, enfin, à participer aux activités de la DMD. Alors, ça fait maintenant plus de 30 ans. Et maintenant, depuis les dernières années, de plus en plus, j'ai effectivement accompagné des gens à mourir. Alors, ça vient de toute la France, évidemment. Quand quelqu'un m'appelle en me disant « je suis au bout du rouleau, j'ai telle pathologie », moi je m'assure toujours de que l'entourage est informé, que les directives anticipées ont été écrites. Ça c'est très important, que ce soit ça se fasse dans des bonnes conditions. De temps en temps, c'est quelquefois un peu lourd tout de même, hein, faut dire la vérité, parce que ça fait beaucoup de personnes qui sont dans des détresses terribles. Et ils me mettent devant le fait accompli en me disant « vous, puisque vous aidez, aidez-moi ». Je suis pas du tout dans la même configuration. Je suis pas leur médecin, j'interviens comme un militant à qui on demande de faire quelque chose, comme un espèce de distributeur de mort. Je peux estimer maintenant, entre les gens que j'ai aidés en tant que médecin de famille, des accompagnements, et depuis que je suis très militant, là, ça peut faire peut-être une centaine de personnes. J'ai pas eu d'ennui juridique. J'ai jamais été inquiété. Je me suis retrouvé un jour avec le procureur de Vaucluse et il m'a dit « Vous aimeriez bien que je vous mette en prison ?» Et il pensait à l'euthanasie et au fait que je dise publiquement que j'aidais des gens à partir. Et je lui dis « Oui, je sais bien, ce serait pas mal. D'ailleurs, ça ferait un beau procès. » Et il me dit « Mais c'est justement pour ça que j'ai interdiction de vous attaquer. » En gros, ils veulent surtout pas qu'on médiatise. Parce que chaque fois qu'on médiatise, Chantal Sébir, Vincent Lambert, Bonne Maison, chaque fois que vous avez une médiatisation, toute l'opinion publique ne fait que pousser en disant « Ouf, ils ont bien fait d'aider les gens. Ils étaient dans souffrance, ils demandaient à partir et on les a aidés à partir. » Donc en fait, ils n'ont pas intérêt. Et je crois que c'est pour ça que je ne suis pas poursuivi. On ne peut pas empêcher les gens de mourir. Et le fait que les euthanasies sont clandestines, ça met tout le monde très mal à l'aise. Ça met la famille dans une situation de porte-à-faux. Finalement, on laisse les gens craquer au lieu de leur faire des propositions. Ce qui est dégueulasse. Il faut absolument qu'il y ait une loi, quoi.